Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle et ce soir avec l'auteur de bande dessinée, Cyril Pedrosa.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Tout commence comme dans un tableau sombre, terré pareil à des animaux friands d'histoire, les visages baignés de lumière orange, trois hommes, des paysans, des manants, se racontent un braconnage qui a mal tourné. Dans votre dernier album, Cyril Pedrosa, que vous signez avec Roxane Moreille, on passe du monde des villageois moyenâgeux aux sphères les plus hautes du pouvoir royal. Des forêts obscures, effrayantes ou enchanteresses, aux intérieurs secrets de quelques bibliothèques, qui ne renferment pas seulement le savoir, mais peut-être aussi un espoir d'aspiration à plus d'égalité. Le roi est mort, vive le roi, on se dispute naturellement sa succession et ce qui doit advenir du peuple en révolte. Trahison, fidélité, légende, histoire des hommes, chevaux lancés au galop dans la nuit, c'est un album où la princesse a du sang sur les mains, des visions et du courage, c'est un album plein d'action. Il s'appelle L'Âge d'or, il est publié aux éditions Air Libre. Bonsoir Cyril Pedrosa.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Il faut dire tout de suite que c'est le premier tome parce qu'il se termine par à suivre.
Oui, il y aura deux volumes. En fait, on a écrit l'histoire en une seule fois, en un seul élan. Et puis, on voulait vraiment, en fait, au départ, la publier sous cette forme-là. Et puis, je me suis rendu compte, en commençant à dessiner les premières pages de l'album, au bout d'une trentaine de pages, que le livre allait en faire 500. Et j'ai eu un peu peur, en fait. Je me suis dit que, d'abord, j'aurais peut-être pas le souffle pour tenir 5 ans de travail comme ça sur un livre. Ce serait aussi compliqué de faire un objet livre de ces dimensions-là. Ça, c'est des choses un peu qui peuvent paraître bêtes et très prosaïques, mais qui ont une incidence directe sur la vie d'un livre. Et donc, avec Roxane, on s'est remis au travail. On a rien changé fondamentalement au récit, mais on l'a restructuré un tout petit peu pour qu'il puisse, comme ça, se construire sur deux piliers. Mais c'est un seul souffle, quoi.
Et puis, c'est pas mal, un peu de suspense. Je dis qu'il était très mu par l'action. On
c'est
y reviendra.
Vrai, c'est vrai que ça fait, il y a une suspension. Et puis aussi, ça a du sens par rapport à ce récit, parce qu'il y a un vrai moment de bascule. Dans l'action, mais aussi à l'intérieur des personnages, dans ce qui les anime et dans ce qui traverse cette société. Et entre les deux livres, il va se passer sans doute environ un an et demi entre les deux temps de leur publication, mais dans le récit, il se passe plusieurs années aussi à ce moment-là. Donc cette coupure-là, elle a un peu de sens.
Le père Mathurin, il avait trouvé la biche comme ça, morte, dans un fossé du bois d'Armand. Alors il se dit, quand même, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais tué, ce bestiau. Et puis après tout, les loups vont bientôt dévorer cette charogne. Pas une insulte à notre bon seigneur d'Alençel d'en prendre un petit morceau. Et alors ? Alors il rentre chez lui avec le cœur de la biche caché sous sa tunique et il demande à la mère Mathurin de lui faire un ragoût. Et v'là-t-il pas que pendant qu'elle prépare la bidoche, l'intendant du château passe dans les parages. Vous savez, le grand là tout maigre avec les moustaches. Ancelin ? Oui, Ancelin. Il rentre comme ça chez les Mathurin, et il leur dit « Ah ben, ça sent drôlement bon par ici. » Et il s'assoit près du feu, à côté de la marmite. « J'aime bien m'asseoir près du feu, moi aussi. » Après, les joues, elles sont toutes chaudes. « Ferme-la. » Et donc la mère Mathurin, elle lui sert une assiette, bien obligée. Il paraît qu'elle tremblait de la tête aux pieds. Et le père et la mère Mathurin, ils restent comme ça à regarder Ancelin mastiquer des grosses bouchées de bidoche. Et vas-y qu'il t'avale tout ça, qu'il lèche son assiette, qu'il se lève et qu'il dit « c'était bien bon ». Et puis il attrape le père Mathurin et là il lui dit « que je te reprenne jamais à braconner sur les terres du seigneur d'Alençel ». Et alors ? Rien. Il lui a coupé le nez, c'est tout. Quand même, c'est pas juste. Non. Elle donne fin à ton histoire. C'est vrai, moi aussi j'ai faim. Et j'ai mal aux pieds. On n'est pas si mal. Arrête de râler, pou de vigne. Le gros Martin aussi, il dit ça. Quoi ? Il dit quoi, le gros Martin ? Il dit, pou de vigne, il râle comme un putois, mais il est fainéant comme une loutre. Ah oui, il dit ça, le gros Martin. Oui, je ne savais pas que c'était fainéant, une loutre. Eh bien, tu lui diras au gros Martin que moi, au moins, j'ai pas un cul gros comme une vache. Et arrête de tripoter ces crottes de lapin, tu me dégoûtes. Waf. Waf. Vous entendez ? Waf, waf, waf. C'est le corps du seigneur d'Alancelle. Ils ont dû coincer un bestiau vers l'étang de Valris. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Gros Martin et la piètre doivent être en train de crapahuter dans les broussailles. Et nous, on est là, tranquille. On aura quand même notre part de tripaille. Ouais, sauf que si on pouvait le chasser nous-mêmes, le cerf, c'est pas les tripailles qu'on mangerait. On pourrait manger les cuisseaux. Ça te plairait, ça, hein ? Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Eh bien, je peux te dire que c'est meilleur que les crottes de lapin. Je mange pas les crottes de lapin. Je t'ai vu, si. Un bon cuisseau, bien rôti, bien juteux, moi, c'est ça que je voudrais. T'as envie de te faire couper le nez ? Non. J'ai faim, c'est tout, et j'en ai marre de manger leurs restes. Et j'en ai marre de passer mes journées à piocher leur terre pleine de caillasses et de poussière. Et toi, l'anguille, ça te plaît ? T'es content de te tuer à la tâche pour engraisser les comptes et les marquis de mon cul ? Pff, qu'est-ce que tu peux y faire ? Je sais pas. Il paraît que dans la péninsule, c'est pas comme ici. On m'a dit que là-bas, les arbres s'écroulent tellement ils sont remplis de fruits. T'as qu'à lever le bras pour te servir. Il paraît. Si on était moins bêtes, on ferait nos baluchons, et puis on irait dans la péninsule. Ouais, peut-être. Hola, Manon. Sur quelle terre sommes-nous ? Celle du seigneur d'Alancelle, messire. Par le diable, mamie, je crois bien que nous nous sommes égarés.
J'aimerais bien que tous les enfants ne soient pas couchés à cette heure-là et qu'ils puissent profiter de la lecture de Romain de Bec-de-Lièvre. C'est le début de la bande dessinée que vous signez, Cyril Pedrosa avec Roxane Moreil. Évidemment, c'est pas très facile à la radio de faire exister une bande dessinée, mais ça fonctionne quand même parce que le départ, ce sont vraiment des hommes réunis, cachés, dans l'ombre. Je disais qu'ils ressemblent presque des espèces de petits animaux et qui se racontent des histoires. Et vraiment, en ouvrant, je me suis dit que ça commençait par le plaisir de ça. Par le plaisir de se raconter des histoires. Est-ce que c'est parti de là avec Roxane Moreil ?
Ah, c'est faire des livres, déjà, c'est ça le point de départ. C'est le plaisir de se raconter des histoires à soi-même, je pense. Et ensuite, d'avoir envie de les partager. Après, sur cette histoire-là en particulier, je crois qu'il y avait deux envies avec Roxane quand on a commencé à travailler sur cette histoire. Il y avait un moment dans notre vie, mais je pense qu'on partageait avec beaucoup de gens, de désarroi politique, donc ça nous éloigne un peu, mais un désarroi profond. Et dont on ne savait pas quoi faire. Et une envie, dont je ne saurais dire d'où elle vient, mais de raconter, de faire une histoire, mais vraiment faire une histoire. Vous savez, c'est exactement ce qui vient d'être lu là, c'est-à-dire, voilà, des aventures, des personnages, il se passe des choses, on prend les gens par la main et puis on les emmène avec nous. Et de ces deux envies croisées, a commencé à se développer cette écriture entre nous. Enfin, déjà, c'est pas une écriture, c'était plutôt des discussions. On se racontait l'histoire. On a beaucoup travaillé comme ça sur l'âge d'or. On se racontait les histoires. On se disait, ah non, là, ça marche pas, on reprend, on recommence. Allez, hop, et puis on reprend le fil du récit, il peut se passer ça. Et puis parfois, on les suivait sur un chemin. Et puis, ah non, c'est pas une bonne direction. Après, bien sûr, petit à petit, on écrivait, on prenait notes et ça devenait un livre. Mais vraiment, il y avait cette oralité dans le travail.
Quand est-ce que vous vous disiez, ah oui, c'est cette direction que ça doit prendre ?
Ça marchait quand ça nous excitait. Quand on était nous-mêmes, en fait, séduits par l'histoire qu'on était en train de se raconter. Parce que quand on avait envie de savoir la suite. Ah oui, d'accord, ils sont dans la forêt. Et alors, quand les deux nobles arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, ils se battent entre eux, il y en a qui se prend des coups de bâton. Enfin, et là, quand on y prenait du plaisir, on sentait qu'il y avait quelque chose de juste. Après, bien sûr, il y a la technicité de l'écriture, il y a voilà l'équilibre, les situations, le côté horlogerie qu'il y a bien sûr toujours quand on invente une histoire. Mais c'était pas le moteur. Ça vient après.
Ça fonctionne comme une scène de prologue, ces trois hommes qui sont dans la forêt. Presque tout y est. Donc, on a dit le plaisir de se raconter des histoires. Tout à l'heure, ça se transformera au fil de l'album, peut-être dans le rapport à la lecture, à la bibliothèque, au savoir, à la possibilité politique. Et dès le départ, il y a un petit vent de révolte. Si nous, on pouvait le chasser nous-mêmes, le cerf, peut-être qu'on mangerait autre chose que les tripailles. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu, comme une scène qui annonce ?
C'est une scène qui annonce. Enfin, on l'a conçu comme une scène qui annonce, au départ, comme une ouverture, comme ça. Vous savez, on tire le rideau. Voici la situation. Mmh. Et le chœur antique déclame et raconte la situation. C'est que dans la forêt du bois d'Armand, il se passe ta. Et puis après, on aimait beaucoup ces personnages. Et puis on s'est dit, parce qu'on avait un tout petit peu peur qu'en suivant le personnage de la princesse Tida, dont on parlera sans doute tout à l'heure, qu'on soit trop du côté des puissants, de ceux qui sont tout en haut, qui dominent la situation, qui la comprennent et qui la construisent. Et on s'est dit, ah, mais peut-être qu'il faut qu'on utilise plus ces personnages qui sont eux tout en bas, qui subissent, comme on a souvent l'impression de le faire dans notre vie, en fait, de subir des situations qui nous sont imposées, de pas savoir comment réagir et agir. Et donc, de personnages de prologue, c'est plutôt devenu vraiment un cœur antique. C'est-à-dire, ils commentent. Et dans le premier volume, ils commentent, ils reviennent au milieu du récit. Et ils font avancer la situation. Et puis, dans le deuxième volume, qu'on découvrira tous plus tard, ils agissent même. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent des acteurs réellement du récit. Ils se contentent plus de le commenter.
Quand vous dites on a tous cette impression-là, politique, de parfois subir des situations qu'on ne décide pas, est-ce qu'elle n'est pas accentuée, cette impression-là, en situant votre intrigue au Moyen-Âge, où la masse populaire a peut-être encore plus que nous, citoyens du XXIe siècle, la sensation de subir une situation politique qui lui échappe complètement?
Sans aucun doute. C'est-à-dire que, après, c'est un des avantages, une des forces, je pense, du dispositif, enfin du fait d'utiliser un support médiéval comme ça pour toute cette histoire, c'est que tout est exacerbé. La misère est terriblement misérable. Les puissants sont terriblement puissants. Tout est très clair, tout est très lisible. Et puis, comme ça fait partie à la fois de notre imaginaire et puis de notre connaissance historique commune, on sait que ce temps est révolu. On sait que les gens qui vivaient à cette époque-là, eux, avaient l'impression que ce temps serait éternel. C'est-à-dire que le paysan au XIIe siècle pense que de toute éternité, lui, ses enfants, ses petits-enfants seront des paysans condamnés à subir le joug du Seigneur. Et nous savons que ce n'a pas été le cas. Donc il y a quelque chose d'une très grande clarté, je pense, pour le lecteur. Après, le jeu, c'est de jouer avec la connaissance qu'il a de cette situation-là. En plus, c'est pas du tout, bien sûr, le livre n'est pas historique. C'est un Moyen-Âge à la Charles Perrault.
Enfin, c'est vraiment des codes.
On joue avec ça. Mais simplement, tout est clair. C'est pas contestable. C'est ça qui était intéressant. On se disait, comment on peut parler d'utopie sans que ce soit contestable? On peut ne pas aimer l'histoire. On peut ne pas être séduit par le récit. Mais en tout cas, le préambule qui est, on a le droit d'espérer. On voulait que ça ne puisse pas être contestable. Et le fait de placer la situation dans cet univers-là, je pense que ça fait que ça ne l'est pas, en fait. On peut pas contredire ça.
C'est-à-dire qu'éventuellement, si ça avait été Nuit debout, Place de la République ou n'importe quelle autre place en France, dans n'importe quelle autre ville, ça l'aurait été davantage. Je vous avoue qu'il y a un moment donné où moi je me suis dit, tiens, ça pourrait ressembler un petit peu à cette situation politique française.
Ça pourrait, mais je pense que ça pourrait ressembler à plein de situations, des situations politiques contemporaines, françaises et ailleurs, hein, je pense. En tout cas dans l'Occident, parce que ailleurs je connais moins, mais on sent comme ça cette tension, ce désarroi qui se traduit d'une manière politique, enfin de manière politique très très différente. Mais et puis dans le passé, on connaît d'autres moments comme ça de désarroi profond. Et l'avantage d'observer le passé, on en parle d'ailleurs un petit peu dans le livre, c'est qu'il nous apporte des clés de compréhension, des clés de des éléments de désespoir et d'espoir. Il amène les deux, c'est-à-dire que examiner le passé, c'est découvrir les échecs des combats menés, mais aussi à travers le temps, à quel point ces échecs en fait ont permis de construire des réussites, de l'émancipation. Bon, là, je suis en train de me perdre un peu dans le fil de ma pensée, mais c'est-à-dire que si on avait raconté cette histoire-là aujourd'hui, je pense que des tas de choses auraient pu être désamorcées dans le récit. Là, on sait de toute évidence que ce monde, un jour, le monde qui est décrit dans ce livre, un jour, il va tomber.
Et on a d'autant plus peut-être de liberté à le voir s'agiter.
À le voir s'agiter. Et l'enjeu, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui va le faire chuter. Comment les hommes vont-ils réussir à faire tomber ce monde et en créer un nouveau? Voilà, c'est ça, en fait, l'enjeu.
Quand on parle d'imaginaire lié au Moyen-Âge, évidemment, il y a cette idée du monde qui est réparti entre les puissants et les moins puissants, voire les très faibles. Et puis, c'est aussi tout un rapport au texte, tout un rapport à la graphie, tout un rapport aux images. Et on va entendre à ce propos Claude Gauvard.
Au départ, la lecture était une lecture à voix haute, où le scribe écrivait sous la dictée, et celui qui lisait, pour saisir le texte, il fallait qu'il le prononce, puisque on pratiquait ce qu'on appelait la scripta continua, donc les mots n'étaient pas coupés. Et c'est en disant qu'on trouvait la coupure. Alors, il se trouve que vers le 8e siècle, en Irlande, les moines qui copient les textes dans le latin de Saint Jérôme n'ont plus du tout accès à la connaissance de ce latin, et l'oralisation ne produit plus pour eux le sens requis pour s'orienter dans le labyrinthe de la page. Donc, ils vont avoir recours à toute une série de signes visuels, de ponctuation. Donc là, il y a un véritable transfert de la sphère auditive vers la sphère visuelle, et la page devient en quelque sorte l'outillage visuel permettant d'accéder à la lecture. Les mots sont séparés, les phrases sont terminées par des points, les initiales font l'objet d'une ornementation, la lettre historiée va être une sorte de miracle artistique qui permet de raconter la totalité de l'histoire. Si on évoque le martyr de Saint-Laurent sur son grille, on va avoir le L de Laurent dans lequel on voit un saint en train d'être grillé.
Un extrait d'une série LSD diffusée sur France Culture en 2017, je le disais, on entend Claude Gauvard parler de l'évolution, un latin complètement en continu, dont il faut faire lecture à voix haute pour pouvoir dissocier le sens, jusqu'à l'arrivée de scissions visuelles, la ponctuation, l'enluminure, une codification, et finalement quelque chose de très graphique dans la page. Plein de fois, je me suis dit, en vous lisant, Cyril Pedrosa, qu'il y avait vraiment cette sensation de l'utilisation du livre comme un espace, quoi, comme une scène, comme quelque chose qui, oui, produit un endroit où on pourrait, nous, presque évoluer, quoi, en tant que lecteur, avec notre œil. Et il se trouve que le Moyen-Âge, c'est aussi ça, c'est aussi ce moment dans le minuire, c'est aussi ce moment où la page est un endroit d'espace. Est-ce que ça vous a intéressé dans les recherches que vous avez éventuellement faites, dans l'attirance graphique, peut-être, que vous avez eue pour cette époque ?
Ça m'a intéressé... D'autant plus que, enfin, moi, j'en ai vraiment une connaissance très superficielle. Roxane est beaucoup plus calée que moi, hein, en histoire de l'art et dans les représentations. J'ai une toute petite culture de ça, malheureusement. Donc, j'observe, je cherchais beaucoup d'images. J'essayais de comprendre comment l'espace était représenté. Bon, bien sûr, j'avais des références en tête. Alors, en plus, mon spectre de référence était assez large parce qu'en fait, moi, je suis allé du Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance et même, enfin, voilà, Bruegel, des choses comme ça. C'est-à-dire où là, l'espace se déploie d'une manière très différente, où la représentation répond un peu moins à des codifications, à des représentations d'ordre sociaux, des choses comme ça, mais où on essaie de restituer ce que les sens perçoivent.
Une impression. Sensibilité d'espace.
Et il y a l'idée du spectacle, il y a de la narration aussi beaucoup. Alors, bon, la narration, ça, on l'a déjà au Moyen-Âge. Mais en fait, ce qui était difficile pour moi, c'était, comment dire, d'essayer de trouver quelque chose qui, dans la ligne graphique, où il y ait, de définir quelque chose qui a une vraie cohérence dans l'ensemble du livre, qui crée un univers, mais que cet univers ait une vraie singularité, qui soit au rythme du récit, enfin, qui réponde au récit, qu'il soit juste par rapport au récit. C'est toujours ça qui est difficile quand on dessine une histoire, c'est qu'il faut que ce soit juste. Il s'agit, en essayant de ne pas s'enfermer dans des habitudes de dessin, d'éthique, etc. Et en même temps, de ne pas faire quelque chose qui demande trop de clés de compréhension, qui soit assez évident. On avait tous les deux, avec Roxane, très très envie que ce livre soit, sans rien lâcher sur le fond, mais qu'il soit très facile, que tout le monde puisse y plonger sans difficulté, et que tout le monde soit le bienvenu dans cette histoire. Donc ça impliquait, y compris dans le dessin, même si on faisait référence aux enluminures, à certains rétables, à des choses comme ça, de faire en sorte que malgré tout, ce soit avec un vocabulaire qui soit vraiment très très facile d'accès pour tout le monde, qui soit même séduisant, si c'était possible. Donc c'est un équilibre à trouver.
Et parfois, en utilisant tout l'espace que propose un livre quand il est déplié et qu'il est sur deux pages, sans texte d'un seul coup, et en allant chercher vraiment nos propres sensations, c'est-à-dire qu'il y a plein de doubles pages que j'ai comme ça en tête, où en effet, c'est une invitation grande, très sensorielle en fait, presque.
Oui, avec des déambulations, avec du voyage, et puis... Alors après, en plus, bon, c'est difficile d'en parler sans être trop technique, mais le livre en bande dessinée... La pagination, les doubles pages, les passes qui se tournent, la dimension du papier, tout ça, ça a une incidence sur la manière dont on perçoit une histoire. Et bien sûr, quand on est lecteur, on n'y pense absolument pas. Et heureusement, en fait, on n'y pense pas.
On n'y pense pas si le boulot est bien fait.
Si le boulot est bien fait, on n'y pense pas. Exactement, c'est vraiment ça. Mais évidemment que tout ça, c'est une construction. Et les auteurs, moi, Roxane, on, et n'importe quel auteur, enfin, essaye de prendre un lecteur par la main et de le pousser à passer par certains chemins, à prendre certaines directions, à lire à un certain rythme. Le lecteur, il est maître. C'est-à-dire que bien sûr qu'on sait très bien qu'à tout moment, il peut passer 10 pages, il peut lire le livre à l'envers s'il le souhaite, il peut lire une page sur deux, enfin, il est le maître à bord.
Mais nous, il peut manquer des détails qui vous paraissent intéressants.
C'est ça, donc c'est à nous, quand les détails sont importants, comment on fait pour l'amener à essayer de ne pas manquer ce moment-là? Enfin voilà, donc il y a plein de techniques, ça fait partie de la technicité, disons, de la bande dessinée, et puis aussi, voilà, des outils de narration, c'est mettre une onomatopée à côté d'un élément de dessin important parce qu'on sait que le lecteur est attiré par le texte, enfin c'est des choses comme ça. Et puis après, il y a le rythme, c'est comment à l'intérieur du livre, on essaye. Là, c'est une quête. On part d'un point A. Le personnage va partir d'un point A pour arriver à un point B.
Alors, peut-être on dit deux mots de ce personnage-là. Oui. Hein. J'ai dit le roi est mort, vive le roi. A priori, ce royaume va revenir dans les mains de la princesse. Et puis, finalement, la mère de cette princesse et son frère font une sorte de putsch. Prennent le pouvoir et elle fuit. Et
elle fuit, elle est poussée à l'exil. Et l'histoire, donc, après, raconte sa reconquête du pouvoir et comment sa reconquête du pouvoir va croiser le destin du peuple, enfin de son peuple et ensuite du peuple, et comment chacun des personnages de ce récit est lié, intimement lié à une histoire fondatrice de cette civilisation qui s'appelle l'âge d'or. Un texte qui est même un objet, un livre, et ce livre a un pouvoir singulier pour qui s'en saisit et l'utilise. Donc l'histoire générale, c'est ça. Et donc à l'intérieur du récit, dans n'importe quelle histoire, on fait des choix pour se dire à quel rythme les personnages se déplacent, comment l'aventure avance. Et là, c'est sur des hommes qui avancent et des femmes qui avancent à cheval. Ils traversent des territoires, ils traversent des plaines. Donc, c'est ça aussi, par exemple, l'intérêt de ces grandes doubles pages avec des déambulations et avec des textes où les personnages parlent, parce qu'il y a quelque chose comme ça, comme de la marche lente. Et c'est très intéressant d'essayer de travailler là-dessus. Et puis aussi, ce qui est intéressant, mais ça, c'est plus un plaisir de dessinateur, c'est que ça amène à résoudre les problèmes de dessin d'une manière assez particulière. Le fait de devoir faire se déplacer un personnage dans un décor, ça oblige à inventer plein de petites solutions, plein de petites inventions qui sont au-delà de la représentation naturaliste d'un décor ou d'une situation, mais vraiment de tricher sur la perspective, sur les angles, de tricher sur les proportions d'un personnage quand c'est nécessaire.
Voir du texte, parce que parfois on entend presque un discours qui s'éloigne.
C'est ça, essayer d'utiliser un texte qui vient, enfin une voix qui viendrait hors champ, et puis ensuite utiliser le texte pour qu'on suive le personnage, qu'on voit qu'il passe à un endroit très précis. Bon, ça, après, c'est toute une petite mécanique qu'on déploie, mais ce qui en fait vraiment quelque chose d'extrêmement excitant, en fait, à dessiner.
Et puis parfois, vous cassez ce rythme. Je pense par exemple à des pages où Tilda voit son reflet ou regarde ses mains. Et d'un seul coup, le dessin est très ample. Il est parfois plus du tout naturaliste. Il nous emmène dans des endroits vraiment purement imaginaires. Je le disais tout à l'heure, très, très proche de nos sensations. Et là, on peut imaginer que vous, en travaillant, vous nous imaginez nous arrêter. Prendre un petit peu de temps, peut-être se demander qu'est-ce qui traverse le personnage principal, être traversé par ça, enfin, c'est comme si c'était vraiment une proposition de rupture.
C'est parfois ça, étant entendu que je crois que c'est la partie du travail qui est la plus difficile, ça. C'est-à-dire d'arriver à essayer de se représenter comment le lecteur va vivre une proposition de lecture qu'on lui fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que un texte, là dans ce cas avec Roxane, on a travaillé pendant 6 mois sur le scénario. Moi, le texte, je le connaissais par cœur, chaque mot, chaque ligne, et surtout, je savais ce qu'il y avait entre les mots, entre les lignes, comme n'importe quel auteur. Au bout d'un moment, on est complètement à l'intérieur de son récit, on le connaît. Enfin, non, il y a des situations différentes, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était ça la situation. Et puis, ensuite, j'ai commencé à dessiner une fois que le texte était complètement écrit. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une espèce d'épuisement. Je sais pas comment dire. Il est très très difficile de retrouver l'énergie du texte et d'arriver à retrouver la fraîcheur de le nouveau lecteur qui arrive. Comment il lit ça? Comment il le perçoit? C'est très très dur de faire ça. L'avantage d'être à deux, c'est que moi j'avais toujours Roxane qui avait ce regard extérieur nouveau, qui avait pas passé une semaine à dessiner 3 pages, donc elle les lisait. Elle disait, ah formidable, il se passe ça. Ah ou ah non, là c'est un peu bizarre. Mais donc c'est un jeu de construction et de projection, mais qui est pas toujours. On essaie de garder le contrôle de la situation. On essaie de se dire, ah là, j'aimerais vraiment que le lecteur prenne un temps. On fait tout.
Oui,
pour,
c'est pas dit qu'on le fasse.
Mais c'est pas dit qu'on le fasse.
Il y a, vous le disiez tout à l'heure, des déambulations. Parfois, on les voit dans des plaines. Et puis, parfois, ils sont dans des forêts. Et il me semble que vous avez pris un malin plaisir à faire de cet espace des forêts un espace vraiment très singulier.
dans la forêt, donc cet espace étranger, puisque c'est cela que cela veut dire étymologiquement, c'était l'espace forain, autre, c'est à la fois le monde de l'inconnu, le monde de la liberté, c'est-à-dire d'une liberté qui se vit, ou une liberté de défi aussi en dehors des règles sociales et des usages de la cour, c'est tout l'autre monde aussi, et dans la forêt, en effet, il y a les brigands, il y a les fées, surtout près de la fontaine ou sous un arbre, et puis il y a aussi les ermites. Les ermites se trouvent toujours au cœur de la forêt, et la plupart du temps, en effet, l'aventure du chevalier a l'air de commencer à la fois lorsqu'il affronte la forêt, donc l'inextricable dédale de cette existence, et peut-être de ses angoisses, de ses peurs, toute cette part d'inconnu qu'il va affronter, et elle se termine, on pourrait dire, enfin pour beaucoup de chevaliers du roi Arthur, elle se termine dans la forêt lorsqu'ils reviennent après avoir affronté toutes les épreuves du monde, de ce monde, et lorsqu'ils sont dépouillés aussi de leurs amis, de leurs amours, lorsqu'ils sont riches à la fois d'amour, de rencontres, de prouesses et de douleurs, et à ce moment-là, ils reviennent vers l'ermite qui représente la parole de sagesse. Et ils prennent refuge en Dieu. C'est une sorte de transcendance qu'ils retrouvent dans ce secret de la forêt.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Today you're in for a big surprise. If you go down to the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was is gathered there together, because today's the day the teddy bears have their picnic.
Avant le ukulélé club de Paris, on entendait Claudine Glot parler du secret de la forêt en 2003 sur France Culture dans l'émission Les Vivants et les Dieux, et parler vraiment de l'origine de cet endroit-là comme l'endroit de l'inconnu, de l'étranger, l'espace forain. Cyril Pedrosa, dans L'Âge d'or, il y a plein de moments qui se passent dans la forêt. On disait même l'album s'ouvre dans la forêt, puis ensuite elle est traversée. C'est des moments d'inquiétude, des moments de révélation. C'est aussi un moment, on l'entendait dans cet archive, de prise de liberté possible, oui. Cette forêt. Vous l'avez pensé comment, l'espace de la forêt? Et puis là, je feuilletais pendant la musique votre album, et j'ai envie de dire les espaces des forêts, parce que c'est vraiment, ça arrive et revient de manière très différente.
Ouais, ils sont de plusieurs natures, mais je pense que l'usage principal qui est fait de la forêt dans l'histoire, c'est plutôt l'espace de liberté. C'est l'espace où on peut inventer des choses, essayer, avec un moment essentiel dans le récit qui est celui où le personnage de Tilda, cette princesse, est hébergée, protégée au sein d'une communauté de femmes qui s'est développée à l'abri du monde, à l'abri des hommes, surtout à l'intérieur de cette forêt, et a inventé un modèle de société, voilà, utopique, enfin la société rêvée, un phalanstère, c'est-à-dire elles vivent égales les unes avec les autres, elles ont pris ensemble leur destin commun et elles le construisent ensemble, et ça fait basculer l'histoire, parce que ça fait basculer un des personnages en particulier. Et il était évident qu'en fait, cet espace-là ne pouvait pas exister au grand jour, parce que c'est un espace de subversion et qu'il doit être détruit. Alors après, à l'intérieur du récit, il y a d'autres moments, c'est-à-dire que la forêt est traversée, elle peut être menaçante, mais là, c'est plus parce qu'on joue sur les codes aussi. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et puis après c'est aussi c'est à la fois le refuge et la prison des pauvres, par exemple, la forêt. C'est-à-dire que c'est là où ils peuvent voler un peu de subsistance en glanant ou en braconnant. Enfin, on ouvre là-dessus. Et puis on les retrouve, on retrouvera la forêt même plus tard, y compris dans le deuxième volume du récit, où c'est leur dernier refuge. Enfin voilà. Donc c'est un espace qui est indispensable. Enfin je crois dans cet univers-là, en tout cas, dans cet univers médiéval, ça permet d'isoler aussi les personnages du reste du monde. On les enferme comme ça dans un petit décor. On peut se concentrer sur eux. C'est comme un dispositif un peu. Oui, presque factice, en fait. C'est-à-dire, d'un seul coup, on fait ressurgir la forêt et on peut, du coup, mettre en place certaines situations.
Est-ce qu'il peut aussi monter la fiction au carré? Parce que la forêt, c'est les endroits, pourquoi pas, de enchanteurs, où il y a des fées, où il y a des êtres dont on ne sait plus exactement s'ils appartiennent exactement à l'humanité. Et votre bande dessinée vient comme ça aussi questionner la nature des êtres avec lesquels on parcourt toutes ces pages-là. C'est-à-dire que oui, ce sont des princesses, oui, ce sont éventuellement des gueux, des villageois, oui, ce sont des chevaliers, oui, c'est un seigneur, mais ils sont un peu magiques, ils sont parfois déformés, ils ont des couleurs étranges, vos arbres ne sont pas droits. Il y a aussi quelque chose dans la forêt qui, je trouve, vous permet d'installer une atmosphère
de féerie.
De féerie.
Oui, c'est vrai. La nature permet... Enfin, c'est-à-dire... C'est le vivant, c'est ça qui est intéressant peut-être, en tout cas au niveau du dessin. C'est un peu instinctif, je pense pas que ce soit vraiment théorisé quand on... Enfin, c'était pas théorisé quand on a travaillé sur le livre, mais instinctivement, dans le dessin, dès que je partais dans des représentations d'arbres, de végétation, etc., j'avais l'impression qu'il fallait aller vers quelque chose comme ça, avec de l'étrangeté, de la distorsion, de... Et avec des couleurs aussi, une sorte d'effet de broderie, d'une luminosité étrange, des traits. Alors les personnages en eux-mêmes n'ont pas de pouvoir magique, ce sont vraiment des pauvres êtres humains qui essayent de faire de leur mieux à l'intérieur du monde dans lequel ils vivent, mais par contre la magie est présente autour d'eux. C'est une magie terriblement humaine, parce que cette magie, qu'est-ce qui l'alimente? Alors on en parle un peu dans le volume 1 et puis on le découvrira plus tard. En fait, qu'est-ce qui alimente cette magie? C'est la mémoire des hommes. Leurs espoirs, et la mémoire de leur combat passé. C'est-à-dire que c'est quand même une magie dont la source est l'être humain. Elle n'est pas surnaturelle, en fait.
La forêt, on le disait tout à l'heure, elle se contorsionne et elle donne aussi lieu à des images, hein, parce qu'on parle de bande dessinée, donc l'image est extrêmement présente. Cyril Pedrosa, tout à l'heure, vous disiez, j'ai travaillé avec un spectre d'influence picturale très, 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 très large, et ça fait que nous aussi, en tant que lectrices et lecteurs, on se retrouve avec des références d'images en nous qui sont très larges. Par exemple, moi, j'ai parfois vu arriver du Odilon Redon ou du Van Gogh, des choses qui travaillent aussi des espaces imaginaires. Vous avez consciemment appelé certaines références picturales ou pas forcément?
Non, pas forcément. Pour être franc, les seules références picturales que j'ai consciemment cherchées, c'est Bruegel. Certains tableaux précis sur les saisons, etc., les moissons, des choses comme ça.
Parce que
dans Bruegel, il y a une espèce de déploiement de l'espace dans lequel l'humain est vivant partout. C'est-à-dire que chaque scène, chaque situation, c'est très émouvant quand on regarde ça dans le détail. Parce que quand on les observe dans le détail, chaque personnage est un être humain, un individu. Il a une intention. Il a une interaction avec son voisin.
Ce qu'on sent dans la peinture, vous voulez dire?
Oui, ce qu'on sent dans la peinture. C'est extrêmement vivant. Et il y a aussi, du coup, je trouve une générosité immense, en fait, dans ces tableaux. Moi, ça m'émeut beaucoup, en fait. Le soin qui est apporté à décrire la vie simple de gens, souvent très simples, au milieu de décors somptueux, et qui rend compte, en fait, de son temps, mais d'une manière comme ça qui peut paraître assez sobre, mais qui est d'une très, 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 très grande richesse. Et moi, je trouvais ça très beau, et puis je sais pas, j'avais envie d'utiliser ça. Après, la bande dessinée, je pense d'abord, elle fait feu de tout bois, elle prend partout. Et puis, quand on est auteur, je pense qu'on prend partout. On regarde tout, on vole tout. Et ce qui fait après un auteur ou une autrice, c'est la manière dont il restitue ce qu'il a volé, je pense. Ce qui fait la singularité d'une voix ou d'une intention. Donc moi, je serais incapable de dire quelles sont mes influences, mais elles sont...
Sinon de dire que, par exemple, oui, dans cette peinture-là, il y a quelque chose de la chaleur ou de la manière dont chacun des êtres est rendu vivant qui vous a intéressé. Est-ce que chacun des projets que vous entamez, Cyril Pedrosa, vous avez une sorte de compagnonnage comme ça, avec un univers pictural, ou est-ce que pas nécessairement ?
Pas nécessairement. Je pense que le point commun entre chaque livre, c'est plutôt la question. La question, mais vraiment à laquelle je me confronte tout le temps, c'est mais comment il faut dessiner ça ? Comment il faut dessiner cette histoire ?
Et la réponse est jamais la même.
C'est jamais la même et elle est parfois un peu difficile à trouver. Je pense que beaucoup d'auteurs de bande dessinée ou d'autrices de bande dessinée sont dans cette situation-là. Il y a toujours un moment au début du livre, un moment que j'appelle la danse du scalp. C'est-à-dire qu'on est là, l'histoire est devant nous, et on peut passer un jour, deux jours, trois jours, un mois à tourner autour de la table en bougeant, en faisant des moulinets avec ses bras, mais on dessine rien parce qu'on sait que quand on va poser le crayon, quand on va dessiner un chemin, et que c'est ce chemin-là qui va nous mener pendant tout le livre. C'est assez long. Comme j'ai pas envie de répéter les mêmes choses, parce que je pense que ça n'a aucun sens. Je pense que chaque histoire a besoin d'un vocabulaire graphique spécifique. Ça, on trouve pas toujours le bon, bien sûr, mais c'est celui-là qu'on cherche, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est celui-là que j'essaye de trouver à chaque fois. Et il y a différentes manières d'y arriver. Pour d'autres livres, parfois, c'est très instinctif. C'est en essayant de plonger dans l'histoire comme ça et de juste laisser venir le dessin qui advient et de l'utiliser. Ça peut être vraiment dans l'improvisation la plus totale ou au contraire, comme dans le cas de L'Âge d'or, avec quelque chose qui était très tenu. C'est-à-dire que L'Âge d'or, c'est un livre qui est de bout en bout dessiné de la même manière. Il y a une codification qui est contraignante,
bien sûr. J'allais dire oui, elle n'est jamais emprisonnante.
Elle l'est parfois, oui, bien sûr, c'est épuisant.
Mais vous la choisissez.
Mais je l'ai choisie, et puis surtout, je tiens bon parce que j'avais le sentiment que c'était ça qui était juste. Mais sur d'autres livres que j'ai pu faire, sur les équinoxes ou même sur Portugal, je sentais qu'à l'inverse, là, il fallait changer de forme. Mais voilà, ça se décide comme ça, et puis parfois je me trompe aussi, hein, bien sûr. Avec, en plus, là, un cas particulier qui est la situation au travail à deux, le fait de travailler avec Roxane, il y a une dynamique là-dedans qui est difficile à décrire, mais j'avais commencé à dessiner L'Âge d'or d'une certaine manière, assez différente, avec un dessin formellement beaucoup plus classique, en fait, et même dans la narration. Et c'est vraiment le regard extérieur de Roxane qui m'a amené à me dire non mais là je suis en train de faire fausse route en fait.
Et notamment par exemple la direction, c'est quoi ? J'ai lu que ça devenait peut-être plus pointu, que c'était un tout petit peu plus grinçant et qu'au départ votre dessin était plus rond, le récit était plus rond.
Ouais, le dessin était presque bizarrement, ça fait un drôle de mélange, mais à la fois plus réaliste d'une certaine manière, mais aussi presque disneyen. Même si dans L'Âge d'or, il y a quelque chose qui n'est pas très loin parfois du dessin d'animation, parce qu'il y a une ligne comme ça qui est tenue.
Et une présence très très forte d'un point de vue graphique des personnages.
Du mouvement, ouais. Aussi. Donc c'est vrai que ça rappelle beaucoup, je crois, je pense l'animation. Mais là, dans les toutes premières moutures, il y avait vraiment quelque chose de très distinct. Bon, à la fois, sans doute parce que moi j'ai bossé un peu chez Disney, ça m'a influencé tout le temps. C'est un truc contre lequel j'essaie de lutter. Parce que c'est très bien de lutter contre ses mauvaises habitudes ou même contre ses habitudes de toute façon. J'avais vraiment le sentiment qu'il fallait trouver cette féerie dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire comment graphiquement, sans être dans l'anecdote, on donne une espèce de musicalité un peu. Je sais pas comment dire. Moi, j'avais en tête quand je dessinais, d'essayer de trouver quelque chose d'un peu cristallin. Je sais pas comment le dire autrement.
Mais c'est ça, c'est plus pointu que probablement ne l'était le premier dessin.
Sans doute, oui.
Nous sommes toujours sur la brèche en ce qui concerne les progrès techniques et en ce moment, ça va très vite. Quand vous voyez les anciens albums de Bico, par exemple, ils étaient en bleu et rouge. On avait l'impression qu'ils étaient en couleur, mais il n'y a que deux couleurs imprimées avec une trame très grosse qui serait inadmissible maintenant. Peu à peu, la couleur a commencé à entrer, elle aussi, dans le langage de la bande dessinée. Et on se sert de la couleur pour faire des gags, pour exprimer des sentiments. Et c'est très important. Mais depuis, il y a eu d'autres améliorations, aussi bien dans l'impression que dans la typographie. On se sert de beaucoup d'astuces typographiques. Dans la mise en page s'est libérée. Dans les styles de dessin, moi j'utilise dans Pilote des dessinateurs que je n'aurais jamais pu faire admettre il y a quelques années. Et puis il y a ne serait-ce que les instruments de dessin, ça a beaucoup changé. Vous ne pouvez pas imaginer le changement que le crayon feutre a apporté dans le métier. Bien sûr, ça peut faire rire. Eh bien, voilà, il parle du moyen d'expression, il en est au crayon feutre. Mais quand on est 8 heures sur une planche à dessin tous les jours, et qu'on essaie d'exprimer une idée, et qu'un instrument arrive et qui vous montre comment l'exprimer parfaitement, croyez-moi, c'est très important.
Les instruments et la manière dont ça révolutionne le travail, on est en 1981, c'est une archive où on entend Goscinny dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture, et il parle au tout début de l'archive de la couleur, et c'est vraiment, je pense, assez important qu'on en parle maintenant, après ce que vous venez de dire, Cyril Pedrosa, et des choix du dessin pour cet album L'Âge d'Or, parce qu'il y a quelque chose dans les teintes qui est assez impressionnant, qui se passe dans cet album, la manière dont elles évoluent. Au départ, on vous sent presque sur des rythmes très binaires, sur l'utilisation extrêmement précise de teintes, qui ensuite se complexifient, il y a beaucoup de nuances qui arrivent, et comme ça va avec le chemin de pensée, le chemin politique que prend l'histoire, on se dit, ça n'est pas tout à fait un hasard.
En fait, pour être tout à fait franc, d'une manière générale, la couleur, c'est pour moi la chose la plus complexe, la plus difficile, la plus ardue, celle qui me fait le plus peur, celle qui me met le plus en difficulté. Je la maîtrise beaucoup moins que le dessin. Je ne dis pas que je maîtrise le dessin, mais vraiment, la couleur, j'ai vraiment l'impression d'une espèce de bataille immense à chaque fois. Et donc, c'est marrant parce que ce que disait René Goscinny là sur la technique, c'est-à-dire que ceci dit, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce livre-là. C'est-à-dire que j'ai commencé le livre avec une certaine technique de mise en couleur qui était par l'utilisation d'outils informatiques sur Photoshop. Mais j'ai découvert entre-temps une autre manière, en fait, d'appliquer cette couleur que m'a montré un copain dessinateur qui s'appelle Loïc Sécheresse. Et ça m'a d'un seul coup, en fait, ça a répondu à plein d'interrogations.
C'est compliqué de nous expliquer quoi ou pas?
Alors, c'est dans la manière, les dessins sont faits à l'encre, sont dessinés à l'encre, au pinceau ou à la plume, en noir et blanc, sur des planches. Ensuite, donc, ce dessin est numérisé. Et c'est une technique qui permet de transformer le trait noir en trait de couleur. J'utilisais une technique vraiment, en fait, très laborieuse, un peu comme celle de la sérigraphie qui consistait à superposer le même dessin mais de plein de couleurs et en faisant disparaître le trait rouge au-dessus pour faire apparaître le trait bleu en dessous. Donc, c'est comme ça qu'ont été faites les premières pages de l'album, mais c'était dans cette direction-là que je voulais aller, c'est un trait coloré et surtout un trait coloré sur des fonds très foncés. Je voulais que ce soit comme de la broderie, comme du fil d'or, quoi. Mais en fait, Loïc m'a montré une autre technique qui permet de le faire d'une façon beaucoup plus subtile et de pouvoir du coup choisir avec énormément de précision chacune des teintes. Ça, à la fois, ça m'a ouvert une espèce de champ des possibles.
Ça a démultiplié votre temps.
Mais par contre, ça a démultiplié la complexité et tout et le temps de travail, etc. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est comment parfois tous ces hasards de tous ces accidents en fait viennent enrichir une création. C'est vraiment.
Et comment
mais après c'est le jeu aussi, enfin c'est-à-dire c'est essayer d'utiliser ça et le tirer vers ce qu'on est en train de dire. C'est parce que le problème c'est pas les imprévus, les accidents ou le fait que les choses se refusent à se donner comme ça facilement. L'enjeu c'est d'utiliser toutes ces difficultés là au service de ce qu'on est en train de raconter. On peut se tromper, c'est pas grave, mais l'erreur on la tire vers nous pour raconter ce qu'on est en train de faire. Et ben là c'était un peu ça, c'est-à-dire que des difficultés que j'ai eues au départ pour mettre en couleur, pour trouver des solutions, la solution apportée par Loïc, et ben voilà, hop, j'ai essayé de la tirer au maximum pour que tout ça s'enchaîne et soit au service de l'histoire. Et quand on y arrive, c'est très excitant.
Et viennent éventuellement nous parler de ce que les personnages sont en train de vivre, parce que ces personnages qu'on a un petit peu délaissés pour parler un peu plus de création au sens de technique, bon, ils vivent aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire ils sont complètement emprisonnés dans un destin très cadenassé, des masses populaires dans l'obscurité, mais une obscurité de domination en réalité. Et petit à petit, leur situation s'éclaircit, des complexités politiques s'offrent à ces masses-là. Et c'est un peu ce qui se passe à l'image. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est, oui, de plus en plus clair. Il y a peut-être plus de lumière, plus de jour au fur et à mesure de l'album.
J'avais pas pensé, pour être franc, j'avais pas pensé du tout. Mais maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai, sans aucun doute.
On prend les premières pages là, par exemple. Voilà, donc j'invite tous les gens qui ont déjà acheté cette bande dessinée à le faire chez eux, hop, et qu'on prend les dernières pages, et ben je trouve que oui, je sais pas, il y a plus par exemple là, il y a beaucoup plus à la
fin.
Plus le
livre, en fait, plus on avance dans le livre, ouais. plus les gammes colorées sont complexes.
Multiples.
Plus les multiples, et puis en fait, même le dessin a changé, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il était nécessaire. Alors ça va être difficile à expliquer, je vais essayer de le faire. Plus le temps passait, plus j'avançais, plus je dessinais de choses, plus je faisais de traits. C'est-à-dire que j'avais l'impression, comme ce sont ces traits qui deviennent de la couleur, un arbre, au lieu d'être une masse, il devient de plus en plus un arbre à l'intérieur duquel il y a des nœuds, des traits, une texture qui ensuite est utilisée et se transforme en couleur. Mais ça, je l'ai appris en le faisant, j'ai découvert en faisant vers quoi il fallait pousser le dessin. Mais c'est aussi parce que on, comme le lecteur, quand on est auteur, on rentre dans un univers, on apprend petit à petit à découvrir quel est le périmètre de cet univers qu'on est en train de décrire. Sans doute que dans l'idéal, il faudrait en fait faire tout ce travail en amont. Enfin, peut-être qu'il faudrait faire tout ce travail en amont.
C'est pas sûr.
Mais je suis pas certain parce qu'en même temps, c'est la découverte de tout ça, des gammes colorées qu'on peut utiliser, de l'espace graphique qu'on peut déployer. Il participe du chemin aussi, du chemin qu'on fait accomplir au lecteur et que les personnages accomplissent. Tilda, elle est accompagnée de deux personnages importants pour le récit. Le jeune Bertil, qui est un jeune homme qui a son âge, mais qui est d'une beaucoup plus modeste condition. Il est fils de paysan et il est au service d'un seigneur Tancred qui lui-même au service de Tilda. Et voilà, et ces trois personnages-là, ce sont eux qui partent en quête. Et puis leurs destins vont se séparer, puis se rejoindre. Et chacun d'eux va suivre un chemin singulier, particulier. C'est celui sans doute de Bertil qui se complexifie le plus. En fait, il se révèle à lui-même.
Parce qu'il comprend de plus en plus de choses.
Oui, c'est ça. Il comprend des choses sur lui-même, sur sa condition, en fait. Il comprend qui il est à l'intérieur de ce monde-là. Il comprend. Je ne sais pas s'il comprend, mais il sent, par contre, instinctivement, qu'il ne peut pas se dérober à l'engagement qui doit être le sien. C'est la particularité de ce personnage-là, je crois.
Il y a vraiment quelque chose qui se pose à lui de l'ordre de qu'est-ce qu'il faut parfois trahir pour plus de liberté, d'indépendance?
À qui et à quoi dois-je être fidèle?
Exactement, ouais. À qui et à quoi dois-je être fidèle? Et à un moment donné, je crois que c'est lui qui dit « Mais dans le monde qui vient, y compris le monde pour lequel nous nous battrons, je ne serai jamais votre égal. » Et il y a quelque chose de sa prise de conscience politique qui est vraiment très importante. On va finir par écouter Hugo Pratt.
C'est pas pour démythifier la bande dessinée. C'est peut-être de l'interpréter d'une façon nouvelle. C'est de l'interpréter avec la préoccupation d'aujourd'hui. Il y a une angoisse aujourd'hui, mais je pense que l'angoisse, il a été de toujours. Corto Maltese, c'est ça. Alors, il n'est pas à l'abri du danger. Il est grand du danger, il est grand d'une préoccupation humaine. Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire a changé. La jeunesse aujourd'hui, ils sont là à faire la contestation. Il y a le mouvement, par exemple, de 68. Alors, avant le 68, vous avez les filles de fleurs, vous avez les hippies, vous avez tout ça. Vous avez tout le temps quelque chose de contestataire, mais révolutionnaire. Parce que contestataire, comme ça, c'est une parole très facile à dire. Mais je pense à quelque chose de révolutionnaire. Pourquoi pas, alors, pas user la même possibilité durant de la bande dessinée? C'est pour ça que Corto Maltese, il est parti d'une certaine façon et mano a mano qu'il va avant en l'histoire, il est obligé à visager une conscience que peut-être avant il dormit lui-même. Il est obligé à la faire sortir tout le temps. Alors, pourquoi pas la fantaisie comme réponse à un monde qu'il est bouleversé, qu'il est préoccupé, qu'il est engagé comme aujourd'hui. Je pense que la fantaisie encore, il a la possibilité de donner quelque chose, de donner quelques moments, quelques instants de tranquillité.
Et voilà pourquoi pas. Hugo Pratt qui se demande si le réveil des consciences contestataires et ou révolutionnaires ne pourrait pas passer par la fantaisie. C'est une archive de 1977. Quand j'ai dit on va terminer par écouter Hugo Pratt, vous avez eu comme ça une sorte de cri du cœur. Ah, enfin. Pourquoi? Parce que parenté de...
Parce que je suis amoureux de lui depuis toujours.
Ah bon, enfin, bah c'est une bonne raison d'être content de l'entendre.
Oui, absolument. C'est la première lecture d'adolescence qui m'a vraiment transporté, Corto Maltese. La balade de la mer salée. J'avais découvert ça dans la suite chez des cousins. Enfin, c'est ce genre de souvenir de lecture dont on se souvient très précisément où on était, comment était la pièce, qu'est-ce qu'il y avait comme bruit autour. Voilà. Donc c'est un moment hyper important pour moi. Mais comme il y en a pour beaucoup de gens. Mais après, en plus, ce qu'il dit, cette question de savoir, est-ce que finalement la fiction, parfois, c'est pas une des meilleures moyens de changer le réel?
La fantaisie.
Ouais, enfin, lui, la fantaisie. Alors, je sais pas s'il dit fantaisie pour des histoires de français-italien ou s'il veut vraiment dire la fantaisie. Je ne sais pas.
Moi non plus.
Je sais pas. Mais admettons même la fantaisie. En tout cas, là-dedans, il y a l'idée, en tout cas, c'est que l'invention, et même parfois une certaine forme de légèreté permet de se désengager de nos peurs, comme ça, en tout cas de les repousser et de construire quelque chose. Moi, on parle souvent ça avec Roxane, il y a pas si longtemps avec un ami, Gwen de Bonneval, qui fait de la bande dessinée aussi. On parlait de comment on ressentait en ce moment le besoin, peut-être plus qu'avant, de construire de la fiction pour nourrir de l'espoir du possible, en fait. Bon, tout ça peut paraître un peu vain, ridicule. Je comprends parfaitement qu'on puisse l'imaginer, le penser. Mais
moi, c'est quelque chose qui m'anime. À quel endroit ça pourrait paraître vain? C'est-à-dire, au regard des nécessités
c'est-à-dire
politiques
que
ou d'un désarroi politique,
je comprends
l'histoire de princesse, ça peut paraître vain, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Je pense que certaines réalités sont d'une telle violence que là, d'un seul coup, arriver avec un discours sur la fiction va nous sauver, bon, je comprends que ce soit un peu inaudible. Et parfois, ça l'est, bien sûr, le réel est d'une très très grande violence, et là, la fiction, elle peut plus rien faire. Elle est démunie, elle est perdue, quoi. Les créateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, la souffrance, elle est là. Mais notre travail, je crois, c'est quand même d'essayer de faire ça un petit peu, malgré tout, enfin, de pas lâcher ça, c'est-à-dire, on doit faire de l'invention, on doit proposer de l'imaginaire, on doit proposer un espace vers lequel les gens pourraient avoir envie d'aller, ou construire avec nous, ou construire un autre en réaction à celui qu'on a proposé. J'ai l'impression que c'est quand même ça notre travail. En tout cas, en ce moment, je le perçois comme ça.
Y compris parce que c'est un espace possiblement d'invention pour celles et ceux qui lisent, et de déplacement intérieur, et donc pourquoi pas...
Et de déplacement intérieur, absolument, et puis d'action. Et puis je crois vraiment que ce qui nous anime et la manière dont on agit, y compris comme ça dans la sphère publique, dans l'action politique, etc. Faut pas se leurrer, ça se nourrit aussi beaucoup de ça, de l'imagination, de l'imaginaire, de nos fantasmes. Et ça, c'est une construction, le monde libéral, pour faire court, disons. En tout cas, celui qu'on connaît actuellement, il répond aussi à la construction d'un imaginaire, il répond à un fantasme. Il a été construit, il a été élaboré. C'est une construction. On peut donc construire autre chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'on peut le faire.
Et ce n'est pas un hasard, Cyril Pedrosa, si dans cette quête-là, Tilda se retrouve dans une bibliothèque, dans cette communauté de femmes qui a choisi de vivre un tout petit peu en dehors de la société, mais peut-être pour y vivre de manière plus égalitaire. Et dans cette bibliothèque, il y a une possibilité de changement, il y a la force motrice, quelque chose qui est peut-être le pouvoir magique dont on parlait tout à l'heure. J'ai trouvé assez étonnant la place qu'avait justement les histoires, les livres, la lecture comme une force. Voilà, vous disiez tout à l'heure ce souvenir de lecture de Corto Maltese. Ben voilà, j'ai trouvé que la force magique était peut-être de ce côté-là.
Elle est complètement de ce côté-là, c'est vrai. Avec Roxane, on a. Ça peut paraître en fait un peu évident peut-être comme ça. En tout cas, dans le récit, il y a quelque chose qui va de soi, alors que ça n'allait pas tant que ça. Ça nous a pris un certain temps pour réussir à trouver, par exemple, pour l'âge d'or, quelle était sa juste place dans cette histoire. Comment
l'âge d'or, c'est donc peut-être
c'est ce récit fondamental qui anime les révoltes de paysannes. Eux, ils se racontent cette histoire comme ça oralement, comme une légende oubliée passée. Et puis un des personnages de cette histoire qui s'appelle Élie le Tabellion, lui, en fait, il sait que ce n'est pas une légende, il sait que ce texte existe. Et si ce texte existe, c'est qu'il est le témoin d'un autre temps, un temps qu'on a oublié, mais sur lequel on peut s'appuyer pour changer le monde de nouveau. Voilà. Il y a un travail assez long, assez complexe pour que l'histoire dans l'histoire trouve sa juste place et vienne animer, justement. Effectivement, c'est une histoire qui anime l'histoire. Et c'était pas si simple. On était content d'avoir réussi à le faire, d'avoir tricoté ça, effectivement, comment dans l'histoire, le livre de l'âge d'or vient relancer les personnages, lancer la révolte, comment ensuite concrètement le livre en lui-même, ça ce sera dans le deuxième volume, agit sur les personnages, et comment concrètement il va agir sur, il va interagir sur chacun d'eux, en fait.
Ça n'était pas une évidence, vous le dites au départ dans le travail avec Roxane Moreil, le fait que ce soit dans une communauté de femmes à l'écart qui ont fait des choix d'organisation, d'autogestion, des choix politiques d'organisation du collectif particulier, est-ce que ça c'était une évidence?
C'est une évidence, je ne sais pas, mais en tout cas c'est arrivé très très vite cette idée.
Qui aurait une dimension assez féministe.
Ah oui, je pense qu'on peut dire ça, oui, clairement il y a une dimension féministe et surtout, enfin comme l'idée aussi c'est de parler... Qu'est-ce que c'est l'émancipation? Comment ça se construit? Quand même, nous, ça nous paraissait évident qu'il fallait montrer, créer les liens, enfin, et décrire les liens, en fait, dans les différents mouvements d'émancipation. Comment ils se nourrissent les uns des autres? Comment le mouvement féministe porte une grande force d'émancipation? Comment il nourrit les mouvements d'émancipation sociale? Comment ils se répondent? Comment parfois ils ne se comprennent pas, d'ailleurs, aussi? Ça arrive. Et ce qui est peut-être que c'est Roxane, d'ailleurs, qui a vraiment plus mis ça en œuvre, mais comment le personnage de Bertil en vient à interroger sa propre condition en découvrant la société que ces femmes ont construite. Et elles ont construit cette société à la fois, bien sûr, pour plus d'égalité, comme vous l'avez dit, mais aussi, très prosaïquement, pour se protéger. Parce que dans ce monde-là, elles sont en danger. Et donc, je crois aussi pour le personnage de Bertil, petit à petit, même si lui, il ne le dit pas de cette manière-là, mais il y a à la fois un désir de justice sociale, mais aussi, d'une certaine manière, presque de se rendre compte qu'il y a une guerre, en fait, qui se déploie. Une guerre qui ne se dit pas, qui n'est pas nommée, mais qui est d'une guerre des plus puissants sur les plus faibles.
Avec une mémoire extrêmement importante, et qui saura faire agir cette mémoire? Donc, une histoire de princesse, on part presque à l'histoire des luttes, quoi.
C'est exactement ça.
Hein?
Ouais, grosso modo, c'est ça.
On croit ouvrir une histoire de princesse, et puis finalement, c'est une interrogation sur l'histoire et la transmission de l'histoire des luttes.
Et en fait, je crois qu'on l'a même fait dans l'autre sens. On s'est dit, on veut faire une histoire des luttes et de l'émancipation, et c'est devenu une histoire de princesse. Mais c'était un jeu de va-et-vient, comme ça, entre ces deux envies.
Merci beaucoup.
Merci
Cyril Pedrosa. Alors, c'est le premier tome de L'Âge d'or. Premier volume, on dit?
On dit premier volume, oui.
C'est paru à l'air libre. C'est signé avec Roxane Moreil. Et le prochain?
Le prochain, si tout se passe bien, si je travaille bien, sortira en mars 2020.
Rendez-vous est pris.
Dici d'ancella sta compagna vostra che ha già perduto sonno fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia e ciò volesse riuscire ma non ci saceri a voglia bene a voglio bene assai dici tence la vuoi che non mi scordo mai. È una passione più forte è una catena che mi tormenta l'anima e non mi va a campare. Dici t'ancella che una rosa immagina.
Au son ce soir, c'était Jacques Hubert à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et absolument quand vous voulez sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter l'émission, réécouter les précédentes, éventuellement nous écrire, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, trouver la référence des archives, la référence des livres dont nous avons parlé et s'abonner au podcast, comme ça vous recevez toutes les émissions quand vous voulez. Je remercie Romain de Bec-de-Lièvre, Lou Quevauvillier, Jeanne Aléos et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission et je vous souhaite une très bonne soirée sur France Culture.
Ma tormenta l'anima e non mi va a campare. Una lacrima lucente vi caduta. Dici da me una poca che ha pensato con sto chiedoce. Voi solo mi guardate, levami questa maschera, dicimma verità. Te voglio bene, te voglio ben assai, sei tu chi sta catena. Che non si spezza mai, suona gentile, sospiro mi carnale, te cerco come l'aria.